Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour notre cinquième cours d'Ancien Testament, niveau 3. Ce cours porte le titre Les manuscrits de Qumran et leur rapport avec les Saintes Écritures. J'imagine que bon nombre d'entre vous, vous avez déjà entendu parler des fameux manuscrits de Qumran. Et étant donné que, par exemple, les pères de l'Église ou de nombreuses générations de chrétiens ignoraient l'existence de ces manuscrits, je pense que nous devrions nous pencher sur le sujet pour mieux comprendre si ces manuscrits peuvent être utiles pour la compréhension de nos saintes écritures ou pas. Et en ce sens, aujourd'hui, donc j'ai choisi ce titre et ce sujet. Et on va travailler ensemble sur quelques textes précis. Je vous propose de voir les textes de Qumran en comparaison et en lien avec les textes du Nouveau Testament ou les textes de l'Ancien Testament. Bien entendu, on ne va pas parler que de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament parce que, en fait, et vous allez voir, tant les manuscrits de Qumran que les manuscrits les textes du Nouveau Testament retravaillent ou vont revisiter les textes de l'Ancien Testament. Et du coup, cette existence, cette complémentarité entre ces manuscrits et entre ces textes doit être soulignée, et c'est le but de mon cours d'aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne Qumran, ce chapitre de mon cours prévoit l'analyse des grottes de Qumran, enfin le lieu de la découverte. Je vais parler très brièvement sur des manuscrits bibliques et aussi je vais toucher une idée au niveau des manuscrits non bibliques. Alors, je dois ajouter, étant donné la difficulté de notre cours, je vais proposer, vous allez pouvoir consulter un fichier. Donc, tous les étudiants qui ont accès à la plateforme Moodle de notre institut, de notre centre, pourront accéder et consulter ce fichier. Il s'agit d'un PowerPoint et c'est le PowerPoint de notre cours d'aujourd'hui. Mais là aussi, vous allez pouvoir regarder et analyser patiemment les textes que je vais présenter aujourd'hui. Et là, vous allez voir en détail, parce qu'il s'agit de textes en hébreu ou en grec, et vous allez pouvoir vous y attarder pour vraiment comprendre de quoi je vais parler aujourd'hui. Donc, c'est un peu technique ce que je vais raconter, mais on ne peut pas esquisser cette difficulté, cette spécificité de cette analyse. Et du coup, donc, il va falloir vous armer avec beaucoup de patience et je vais essayer d'être le plus clair possible et de vous présenter ce qui nous intéresse, hein, pas, de ne pas transformer ce cours dans une sorte de cours ex cathedra ou d'un cours trop détaillé qui ne vous permettrait pas de suivre ce que je dois vous raconter. Alors, en ce qui concerne les manuscrits de Qumran, on les a découverts dans les années 1947. C'est plus exactement au printemps, lorsqu'un berger nommé Mohamed Edib, à la poursuite d'une de ses chèvres, trouva dans une caverne 8 jarres intactes, y compris leur couvercle. Dans une de ces jarres, lui, il a découvert des rouleaux. Et à partir de ce moment, l'aventure Qumran va commencer. Ce berger va essayer de vendre les manuscrits. Bien entendu, il ne s'est pas rendu compte de la valeur de ce qu'il tenait dans ses mains. Et la grotte où on a découvert, donc la grotte découverte par Mohamed Edib, Cette grotte-là a reçu le nom de grotte 1 de Qumran, où on va utiliser l'abréviation 1Q majuscule. Il va y avoir quatre campagnes archéologiques pendant 9 ans, entre 1949 et 1958. Bien entendu, les difficultés politiques de l'époque vont jouer un rôle aussi, qui en fait ne vont pas faciliter les fouilles archéologiques. Mais au total, 270 grottes vont être fouillées, dans toute la région qui a avoisiné le site de Qumran, dont seulement 40 présentaient des traces d'occupation. De plus, seulement 11 grottes ont donné des textes complets ou des dizaines de milliers de fragments, de plus de 900, pardon, 900 textes qualifiés comme appartenant à la période du Second Temple. Il faut aussi ajouter que le site de Qumran se trouve tout près de la mer Morte et que par la suite, les chercheurs ont trouvé des manuscrits ou enfin, dans une quantité beaucoup moins importante à En-Gedi ou à Masada. Il s'agit de deux sites situés au sud de Qumran, aussi au long de la mer Morte. Vous connaissez très bien déjà Masada, vous avez déjà entendu parler, mais là aussi on a découvert quelques des lettres ou très peu de manuscrits, mais en tout cas quelque chose qui permet de faire un lien avec le site de Qumran et de En-Gedi. Et cela a permis, si vous voulez, de comprendre, de mieux situer enfin, les grottes qui se trouvent autour de Qumran, de lui comprendre comment, quand, qui a écrit une telle quantité de manuscrits. Alors, il ne faut pas non plus oublier de vous dire que le site de Qumran en soi n'existe pas. Il ne s'agit pas d'une localité ou d'un village, il s'agit tout simplement de quelques ruines qui ont été découvertes. Et le site archéologique Qumran en soi, il a été compris soit comme une sorte de monastère essénien, c'est la proposition de Roland Deveau, soit comme un lieu de douane, tout simplement, ou d'autres ont vu là une villa rustica, ou peut-être c'est tout simplement un lieu où, à un moment donné, quelqu'un a vécu. C'est très possible peut-être d'avoir quelque chose d'important là, parce que la proximité est loin d'être juste une banalité ou un hasard, mais en même temps, de parler d'un monastère, c'est peut-être un peu exagéré, et les preuves archéologiques manquent, et c'est un peu... c'est difficile de se prononcer en ce sens. Bien aussi, en même temps, on ne sait pas si des Esséniens ont vécu à Qumran, s'ils sont investis dans ce lieu, mais c'est très possible qu'à un moment donné, des gens issus de cette communauté y ont passé peut-être. Là aussi, le lien entre les manuscrits et la communauté essénienne n'est pas 100% établi, quoique je dirais on peut imaginer cela, mais c'est vrai que les preuves ne sont pas aussi claires pour se prononcer à 100%. Alors, peut-être la masse de. En fait, ce qui a poussé les chercheurs comme Roland Deveau ou d'autres, de faire le lien entre les Esséniens, Qumran comme une sorte de chef-lieu, ou en tout cas un lieu très important pour cette secte, c'est parce que déjà les Esséniens étaient connus par Philon d'Alexandrie ou Joseph Flavius, qui en parle, mais en même temps on a On se pose la question, les Esséniens, nous, ils niaient toute autorité sacerdotale qui était à Jérusalem. Et donc, peut-être à l'approche de la destruction du temple de Jérusalem en 70 sous Vespasien et son fils Titus, Tite, peut-être les Esséniens, ils ont ramassé, ils ont mis ensemble toute leur fortune, si vous voulez, spirituelle. Et cette masse de données, tous ces manuscrits ont été peut-être cachés à la veille de cette catastrophe nationale pour les Juifs. Mais là aussi, on est dans la conjecture. On imagine que ça, c'est une des explications possibles pour expliquer, je vous ai dit, le nombre très important de manuscrits qu'on a pu découvrir. En soi, la découverte, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment, je dirais, la découverte du siècle, si vous voulez. Je pense pas que j'exagère. Et en même temps, il y a d'autres éléments qui peuvent être utiles pour nous. Et on devrait peut-être prêter oreille à ce que le monde scientifique peut nous renseigner et peut nous apprendre sur le sujet. Alors, pour ce qui est des manuscrits qu'on a découverts à Qumran, il faut expliquer qu'en général, on les avait mis dans des jarres. Hein, il s'agit de vases assez grandes, hein, assez hautes au niveau de leur dimension, et où on pouvait mettre plusieurs rouleaux. On a découvert des rouleaux notamment sur de la peau, mais aussi des papyrus, ou un seul rouleau sur du cuivre. C'est un rouleau spécial, si vous voulez, un texte spécial. On a découvert presque tous les livres bibliques, à l'exception d'un seul livre biblique. Il s'agit de Esther. Mais on a découvert, et aussi pour d'autres livres bibliques, on a découvert plusieurs copies. Par exemple, pour le psautier, on a recensé 36 copies, 36 copies. D'autres livres comportent juste une copie. Et un, deux paralipomènes ou un, deux chroniques ne sont pas trop bien attestés. Et le seul fragment qu'on a découvert pour ce livre n'est pas compris par tous les chercheurs comme faisant partie de ce livre. Ce qui est aussi important à dire, c'est que on a des rouleaux entiers, par exemple le rouleau d'Isaïe, du livre du prophète Isaïe, qui est aussi, je pense, c'est le 12e qui est au niveau du nombre de copies, et le 3e c'est Deutéronome. Alors, le livre de prophète Isaïe, il est exposé au musée des livres à Jérusalem. Vous pouvez le voir, c'est vraiment une œuvre exceptionnelle, très bien conservée, et si je ne me trompe pas de mémoire, ça fait une quinzaine de mètres au niveau de la longueur. Pour comprendre la valeur, si vous voulez, littéraire, ou la valeur, si vous voulez, matérielle de cette découverte. Et bien entendu, à part ça, nous avons de milliers de petites de morceaux. Et pour cela, il y a une équipe de recherche internationale qui travaille depuis des décennies. Et il y a une très, très complète et très bien réalisée collection qui s'appelle DJD, Discoveries of the Judean Desert. Et là, on peut trouver tous les manuscrits de Qumran, bibliques, tant bibliques que non bibliques, et avec bien entendu des notes académiques et parfois une reconstitution. Parce qu'il faut le souligner, parfois les textes sont abîmés, les rouleaux sont abîmés, alors c'est pas toujours évident de dire ce qu'il va faire. Donc, c'est les philologues qui peuvent proposer telle ou telle terminaison de la phrase en fonction des règles grammaticales. Alors, ce que je voulais souligner, et bien entendu, les recherches sont toujours en cours. Et un des plus grands chercheurs qui a beaucoup aidé, disons, à mon avis, la compréhension que nous pouvons avoir sur les textes, les éditions de la Bible que nous avons aujourd'hui. Parce que toutes nos Bibles utilisent, les Bibles orthodoxes en tout cas, utilisent un texte d'origine, soit le texte massorétique, soit le texte grec, les Septante. Mais lorsqu'on utilise le texte de la Septante, parfois il y a des soucis, des difficultés, parce que on essaye de montrer, si vous voulez, la supériorité du texte massorétique, du texte hébreu, de l'Ancien Testament. Alors, la Septante passe et a reçu le titre de traduction, donc c'est une version, ce n'est pas le texte original, dans la langue originale. Ce qui fait que parfois, dans certaines discussions théologiques ou bibliques, il passe en deuxième, à la deuxième place, il est en second plan. Le travail d'Emmanuel Toff, par exemple, et d'autres chercheurs, a montré, sur le Qumran, a montré que le texte, dans de nombreuses situations, dans le texte grec, enfin le texte de la Septante, en fait, il est très fidèle et très, très correct, et ce n'est pas une traduction maladroite ou une traduction trop littérale, parce qu'avant, jusqu'à ce moment-là, le moment Qumran, on prêtait attention au texte, je vous ai dit, massorétique, texte hébreu. Alors, tout ce qui était du texte de la Septante, on hésitait ou on pensait qu'il s'agissait, comme je vous ai dit, d'une traduction. Parfois, qu'il n'était pas une très belle réussite au niveau littéraire ou théologique. Qumran, les textes bibliques de Qumran ont permis parfois d'expliquer que, je vous donne un exemple, le livre de Jérémie, du prophète Jérémie, en fait, ce n'est pas un texte mal fait, ce n'est pas un travail non terminé ou mal terminé, mais tout simplement, nous avons. Y compris dans la variante hébraïque, un ancêtre, si vous voulez, qui nous permet de montrer, voilà, ça c'est le texte hébreu qui était à la base du texte de la Septante. Pour comprendre cette complexité, il faut que je vous rappelle que le texte massorétique, il s'est formé, en fait, les massorètes, les savants juifs, à partir du 5e, 6e, 7e siècle, ils ont travaillé dans une. Leur entreprise était la suivante. Ils ont essayé de montrer le texte biblique hébreu le plus pur, si vous voulez, le plus correct. Et ils ont éliminé les manuscrits qui étaient, à leurs yeux, pas conformes au filon qui va donner plus tard le texte massorétique. Et la grande entreprise réalisée par la famille Ben Asher, les rabbins de la famille Ben Asher, autour du lac de Galilée. Elle a culminé avec la sortie, la proposition du manuscrit de l'actuel, si vous voulez, texte massorétique que nous avons, nous possédons, c'est le Codex Leningradensis. Et entre-temps, les chercheurs ils ont découvert le Codex Alep. Donc le Codex Leningradensis, il date de 2008, mais le Codex Alep, il date de 970. Et ce codex Alep, qui n'est pas malheureusement complet, il antédate l'autre, mais finalement, peu importe exactement de quoi il s'agit, mais en tout cas, les chercheurs actuellement, ils sont en train de réaliser une révision du texte massorétique que jusqu'il y a 20 ans, les chercheurs possédaient, donc c'était le texte massorétique en général. La Biblia BHS, Biblia hebraica Septuagintesia. Maintenant, ils sont en train de réaliser la BHQ, Biblia hebraica Quinta. Donc là, ils sont en train d'intégrer les données du Codex Alep. Et cela, en dehors de la valeur scientifique et de ces deux manuscrits, ces deux codex. Cela nous rappelle que les manuscrits hébreux, donc, qui n'étaient pas conformes à cette ligne, si vous voulez, orthodoxe du texte hébreu, ont été écartés, et on les écartait, on les brûlait tout simplement, on les mettait dans les guénizas, dans les poubelles, si vous voulez, saintes, qui était aux environs ou à côté d'une synagogue. Et en faisant cela, ils ont enlevé dessus le marché tous les manuscrits qui n'étaient pas, je vous ai dit, conformes. Alors, avec le temps, on n'avait plus de manuscrits hébreux qui pouvaient prouver la pertinence de la Septante. Et les textes de Qumran, justement, nous permettent de prouver, de montrer que, par exemple, dans 1 Samuel 17, donc c'est la fameuse histoire de David et Goliath, ou 1 Roi 17, là, il s'agit d'une différence assez importante entre le texte de la Septante. Il faut voir là que c'est un des deux textes de la Septante. On a deux variantes de la Septante. Donc une variante longue qui confirme, ou qui est confirmée, si vous voulez, par le texte massorétique, et une variante courte qui n'est confirmée par aucun texte biblique, mais cette variante est confirmée par d'autres, y compris par comprendre. On peut voir que il y a encore d'autres exemples. Hein. Je n'ai pas le temps, et ce n'est pas ni le temps ni le lieu maintenant d'aborder ce sujet qui est vraiment très très intéressant. Et donc cela nous permet de comprendre que le texte que nous possédons actuellement, le texte grec, enfin le texte de la Septante, dans la situation où ça existe, hein, parce qu'il y a parfois des Bibles orthodoxes qui utilisent le texte massorétique. Ou par exemple la Bible en roumain qui n'est pas tout à fait elle est très, très éclectique, parfois elle suit les textes massorétiques, parfois le texte de la Septante. Donc là il s'imposerait de revoir la traduction de cette Bible qui est actuellement en circulation. Mais on peut dire que notre texte il est fidèle et que la différence qui existe entre le texte massorétique et le texte de la Septante, elles sont dues au fait que peut-être, à un moment donné, il avait soit un texte Q, un quel, une texte source, donc nous avons, dont l'original est perdu, hein, bien entendu. Donc, cette source originelle, elle a donné des deux familles, si vous voulez, des textes en hébreu, dont une famille va porter plus tard le nom de texte massorétique, l'autre famille. En hébreu, elle s'est perdue, mais là, elle existe via la traduction qui était proposée par le texte de la Septante. Là aussi, là encore, il faut nuancer cette conclusion en disant que on n'a pas traduit la Septante d'un coup, donc pas tous les livres que le texte, l'Ancien Testament, entre guillemets, dans les Bibles éditées d'aujourd'hui, on les a pas tout traduits d'un coup. Alors, il faut voir que parfois, même là aussi, il y a une histoire de la rédaction qui est très complexe pour chaque livre biblique. Hein. En tout cas, quand on parle de la Septante, on fait référence notamment au Pentateuque. Parfois aussi, les 12 les livres le livre des 12 petits prophètes, les 12, hein, ça fait aussi partie dans l'ensemble. Et là aussi, il faut toujours nuancer. Le plus récemment, on a émis une hypothèse que peut-être s'il s'agit en fait des écoles de compréhension qui ont donné des nuances aux textes bibliques existants, que parfois les cercles de pensée qui existaient au deuxième, premier siècle avant Jésus ont fomenté et retravaillé le texte hébreu. Ils ont proposé une autre ligne de compréhension, et c'est là que le texte grec est apparu. Ce qui est tout à fait aussi pertinent, on va voir qu'il y a le judaïsme en Égypte, et le judaïsme palestinien, et aussi le judaïsme au Babylone. En tout cas, celui d'Égypte et celui de Palestine ont été très 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 prolifiques au niveau des textes bibliques. Et il est tout à fait pertinent et possible de penser en ce sens-là. En tout cas, pour l'Ancien Testament en hébreu, en ce qui concerne les livres de l'Ancien Testament en hébreu, on est presque 100% sûr. On parle de 97-98% de textes bibliques identiques. Donc on peut revoir maintenant le texte massorétique qui est actuellement en usage et celui de Qumran qui provient du Filon, qui va donner le texte massorétique plus tard. On peut voir qu'il y a une certitude et une fidélité au niveau de la transmission du texte incroyable. Donc même en ce qui concerne la discussion sur la Bible, sur les textes bibliques, la découverte des manuscrits du Qumran peuvent nous réconforter dans notre réflexion que le texte biblique n'a pas été altéré, n'a pas été changé, n'a pas été faussé avec le temps, parce que nous avons des manuscrits qui datent de 2000, parfois 2200 ans. Et cette ancienneté plus que vénérable prouve que notre Bible, si on prend le texte hébreu ou le texte grec, elle est presque identique. Alors, en ce qui concerne le texte grec, parfois il y a des différences, mais elles sont dues à la traduction, parce que traduire, c'est trahir. On ne peut pas traduire, comme vous le savez très bien, on ne peut pas traduire mot à mot quelque chose. Et si on le fait, on peut le faire, mais alors le texte est vraiment très lourd et on ne saisit pas parfois des nuances ou des éléments de chaque langue qui sont spécifiques. Des expressions idiomatiques, mais en tout cas, quand on doit traduire, on doit à un moment donné faire des choix. Et les choix peuvent paraître parfois comme une altération du texte, mais il ne s'agit pas d'un changement, une altération, mais plutôt de ces spécificités dues au travail de traducteur. Et donc, à mon avis, cette découverte est très importante et il faut l'introduire dans le discours des théologiens, cette assurance que notre texte biblique est tout à fait correct et qu'il est tout à fait vénérable. Et bien entendu, il faut balayer au cas où ça existe. Et parfois, j'ai vu que ça existe, en tout cas, de toutes sortes de explication farfelue que le texte biblique, les grands codex Alexandrinus, Vaticanus, Sinaiticus et Alexandrinus, hein, dans l'ordre chronologique, ont été commandés par l'empereur Constantin, qui a voulu réaliser une religion de l'Empire, toutes sortes d'histoires qui sont inventées, mais parfois, les théologiens doivent avoir cette assurance, ces preuves, si vous voulez, scientifiques, que les choses ne sont pas ainsi, comme certains voulaient les présenter. Pour ne pas trop rester ici et avancer en ce qui concerne vraiment l'analyse sur les textes, je vais passer en ce qui concerne par exemple le contenu des textes, des manuscrits de Qumran et les textes du Nouveau Testament, il faut souligner que parfois on rend compte d'une terminologie et des concepts qui sont parallèles. Par exemple, on parle des fils de la lumière ou les fils de lumière. Dans les deux textes, hein, 1 Thessaloniciens ou Éphésiens, et aussi dans les textes non bibliques de Qumran, on parle aussi des œuvres de la Torah, de la justice de Dieu, par exemple. Et on parle aussi d'un baptême à Qumran, ou d'une sorte de repas communautaire. Mais il faut aussi nuancer tous ces parallèles, parce que, en ce qui concerne la profondeur des idées ou les concepts, il y a des différences qui sont vraiment visibles. Et tout chercheur sérieux connaît ça et il sait bien intégrer ça quand il fait les parallèles. Il y a parfois des expressions qui sont spécifiques au Nouveau Testament. Alors, on trouve l'équivalent hébraïque ou araméen dans les manuscrits du Qumran. Par exemple, l'expression fils de Dieu ou le fils de Très-Haut, qui sont connus de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 1, verset 32, on les trouve dans un texte de Qumran, appelé aussi l'Apocalypse araméenne. Par exemple, on a aussi une série dans la série des béatitudes, heureux les pauvres en esprit, on a l'équivalent philologique en hébreu à Qumran. Et il faut souligner que on trouve nulle part dans les textes vétérotestamentaires cette expression, mais on la trouve à Qumran. Au début, certains chercheurs avaient affirmé que Saint Jean-Baptiste était un Esséniens ou que sa théologie était tributaire aux propositions faites par les Esséniens. Mais en regardant avec attention d'autres textes sectaires, hein, des manuscrits non bibliques, on peut se rendre compte quand même que même s'il y en a des similitudes, les différences qui existent sont beaucoup plus importantes pour pouvoir parler du fait que Jean-Baptiste était tributaire à leur théologie ou vraiment d'une influence très importante. Alors, au niveau des manuscrits non bibliques, on les a comptés, ils sont plus ou moins 300 compositions. Parfois, c'est juste des petits morceaux, parfois, c'est des livres entiers que nous avons, comme la règle de la communauté, la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres, les hymnes. Il y a beaucoup de textes qui sont spécifiques à cette communauté qui a donné, qui a proposé, ou qui a récolté, ramassé tous ces manuscrits. Alors, il y a aussi, comme je vous ai dit, il y a des points en commun entre la Sainte Écriture et les manuscrits de Qumran. Quand je dis la Sainte Écriture ici, je me réfère plutôt au Nouveau Testament. Alors, les deux sont plus ou moins contemporains. Il faut souligner ici que on parle du 12e siècle avant Jésus, 1er siècle après Jésus, et que certainement, je pense, Jésus a entendu ou a connu les travaux de ces gens-là. Mais vous allez voir que c'est le souffle qui est différent et qui change. Alors, entre les deux, tant le Nouveau Testament que les manuscrits de Qumran, des manuscrits non bibliques, font usage du style anthologique. Alors, les styles anthologiques, il s'agit de l'usage de l'Ancien Testament à travers des allusions ou des échos verbaux ou des réminiscences. Là, on a vraiment une sorte de fabrique de composition. Et elle se trouve tant dans le Nouveau Testament qu'à Qumran. En ce sens, ils sont vraiment très similaires. Alors, pour ce cours, moi j'ai pensé à vous présenter, et je vais essayer de faire de mon mieux, vu que je ne peux pas vous montrer le PowerPoint. Je vais parler premièrement du logion de Jésus. Donc, un logion, c'est une parole rapportée comme provenant de Jésus, de Matthieu 11, 5, ou son parallèle en Luc 7, 22, et d'un texte qu'on a découvert à Qumran. Je pense que vous le savez déjà, mais je vous rappelle que les évangiles ont été écrits par des personnes qui ont connu Jésus. Alors, quand on dit que la parole elle appartient à Jésus, il faut se rendre compte que ce n'est pas Jésus qui a écrit cela, ce n'est pas lui qui a rédigé le livre, c'est un auteur qui a rapporté les paroles qui sont attribué à Jésus. Alors, en ce qui concerne le logion de Matthieu 11, 5, il s'agit là d'un contexte où les disciples de Jean-Baptiste vont lui poser la question dont Jean-Baptiste trouve en prison et ils vont aller soit dans l'ambassade à Jésus où ils vont poser la question: mais tu es qui? Qui es-tu? Qu'est-ce qu'on doit répondre à Jean-Baptiste? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes œuvres? Alors, Jésus répond aux envoyés de Jean en leur disant que les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres sont évangélisés. Alors, cette réponse donnée par Jésus, ça, si on regarde avec attention, c'est une sorte de présentation de tout ce que Jésus fait ou il a fait. Et plus que ça, c'est tout le travail de Jésus, mais vraiment, il s'agit de toute la carrière de Jésus, même s'il n'a pas terminé sa carrière, en fait. Et donc, on se pose la question pour quelle raison Jésus donne cette réponse. Et c'est ici qu'on va trouver une petite différence avec le texte de Qumran. Mais pour comprendre cela, je dois vous lire le texte qu'on a découvert à Qumran et qui rappelle ce type de bienfait eschatologique, comme celle de ceux de Matthieu 11. Et on va comprendre mieux, un tout petit peu mieux, quel est le lien avec Qumran. Alors je vous cite, je vous lis le texte de Qumran, il s'agit de 4Q 521. On l'appelle aussi Apocalypse messianique, si vous voulez. Alors, car les cieux et la terre écouteront son Messie, et tout ce qu'ils contiennent ne se détournera pas des commandements des saints. Raffermissez-vous, vous qui cherchez le Seigneur dans son service. N'est-ce pas en cela que vous trouverez le Seigneur, tous ceux qui espèrent dans leur cœur? Car le Seigneur prendra en considération les pieux et les justes, il les appellera par leur nom, et sur les pauvres reposera son esprit, et les fidèles, il les renouvellera par sa force. Car il honorera les pieux sur un trône de royauté éternelle, libérant les prisonniers, rendant la vue aux aveugles, redressant les courbés. Ainsi pour toujours je m'attacherai à ceux qui espèrent et dans son amour. Ici, le il et le texte, il y a une casure. Et le fruit d'une bonne œuvre ne sera différé pour personne, et des actions glorieuses qui n'ont jamais eu lieu, le Seigneur réalisera comme il l'a dit, car il guérira les mortellement blessés, et les morts il fera revivre, les pauvres il évangélisera, et, ici le texte n'est pas complet, les saints il conduira, et il les affamés il enrichira. Et eux tous, et le texte continue, mais il n'est pas complet. Alors donc, je ne vais pas trop insister sur tout hein, ce que vous avez entendu, mais vous avez déjà entendu qu'il y a, ce texte fait référence à Messie et au Seigneur. Donc, et bien entendu au Saint-Esprit. Donc déjà, ce n'est pas vraiment n'importe quel texte. Et on a une sorte de liste, hein, en trois rangées. Comme le manuscrit n'est pas complet, on n'est pas sûr de bien voir toute la liste. Mais dans ce que nous avons déjà, ce qui existe maintenant, on peut dire qu'on a, par exemple, neuf stiches qui permettent de parler d'une liste, hein, de bienfaits, exactement comme Jésus propose. Ce qui frappe dans cette liste, en dehors du fait qu'on parle d'un Messie, qu'on parle du Seigneur, qu'on parle du Saint-Esprit, qu'on parle des pieux, des justes, des saints, des fidèles, tout ce vocabulaire qui vraiment il est tout à fait néo-testamentaire. Alors, ici, il y a quand même quelques expressions, quelques bienfaits eschatologiques qui sont similaires et qui nous invitent à s'intéresser de près. Alors, avant de parler de ces trois, pardon, de ces bienfaits eschatologiques, il faut que je vous rappelle que, par exemple, les bienfaits libérant les prisonniers ou rendant la vue aux aveugles, redressant les courbés, les morts il fera revivre et les pauvres il évangélisera. On a le contexte, en fait, le contexte, on a les parallèles dans l'Ancien Testament. En fait, on fait référence au psaume 146, les versets 7b et 8, et on fait référence au livre d'Isaïe, chapitre 61, verset 1, ou chapitre 26, les versets 14 ou 19. C'est un peu, on ne sait pas exactement lequel, mais dans tout cas, on peut utiliser les deux pour expliquer ça. Alors, je vous ai dit, il y a des expressions communes. Et en fait, on a trois expressions communes. La première, elle est rendant la vue aux aveugles. Quand on dit rendant la vue aux aveugles, c'est un parallèle, enfin, qui provient soit d'Isaïe 61,1, soit du psaume 146, le verset 8. Peu importe maintenant la source en soi, ce qui importe ici, c'est que dans les deux listes, tant de Qumran que du Nouveau Testament, nous avons un élément commun. Alors, la deuxième expression commune, c'est et les morts, il fera revivre. Du côté du Nouveau Testament, nous avons des morts ressuscités. Et la troisième expression commune, c'est les pauvres, il évangélisera. Donc, si la liste du Nouveau Testament, elle comporte six bienfaits, et la liste de Qumran, de Catéchus 521, elle comporte neuf bienfaits, en tout cas, trois sont communs. Ce qui est déjà beaucoup. Il y a encore d'autres détails scientifiques et techniques vraiment qu'il faudrait mettre en évidence, mais je voulais juste m'arrêter, insister un tout petit peu sur le bienfait de la résurrection des morts, parce que là, la source peut être tant Isaïe 26, 14 que Isaïe 26, 19. Mais au niveau de la au niveau du contenu, il y a une infinité avec Isaïe 26, 19. L'autre 26, 14 contient déjà une négation. Peut-être, je pense qu'on doit. On doit laisser tomber. Et alors, il faut voir si plutôt l'Isaïe 26, 19 est la source, par exemple, du bienfait du Nouveau Testament, Kaine Kroe Egerontai, et le texte de la Septante, de 26, 19, il a un texte un peu plus long, Anastizontai Oinekroi, Kai Egerthizontai. Alors, je pense qu'il y a une contraction qui a été proposée par le texte du Nouveau Testament. Une inversion aussi, on a fait. En disant cela, on se rend compte que Qumran aussi s'est inspiré de 26-19, donc tant le Logion que la liste de Qumran comportent la même source philologique. Et donc, à mon avis, ce n'est pas juste un hasard, et ça, il faut souligner, il faut avoir ça en tête. Bien entendu, entre les deux, il y a aussi des différences. Alors, il ne faut pas juste voir que c'est, il y a que des similitudes. La plus grande différence, si vous voulez, est que Jésus parle au présent. Donc Jésus laisse comprendre que c'est lui, le Messie, qui doit réaliser ses bienfaits. Et que le temps eschatologique, c'est maintenant. Jésus ne parle pas d'un jour de rétribution, comme le fait 4Q521. Par exemple, pour l'évangile de Matthieu, le Messie, c'est Jésus. Et c'est ce Messie qui ressuscite les morts et qui évangélise les pauvres maintenant. Alors pour 4Q521, il faut penser que c'est Dieu qui réalisera les bienfaits. Il faut voir quelle est vraiment la place et le travail du Messie de Qumran. Alors, le texte, le Logion de néo-testamentaire, il est de Jésus, il est couronné, si vous voulez, par une béatitude. Mais la liste de Qumran n'a pas cette béatitude. Mais c'est vrai qu'aussi notre texte, le texte dont nous disposons, il est fragmentaire. Alors, au total, la liste de Qumran, si on doit prendre tout en compte, il y a 14 bienfaits et seulement 6 en Matthieu. Voilà, donc. Peut-être Jésus, et c'est mes conclusions en ce qui concerne ce texte, peut-être Jésus, en fait, il se réfère à cette liste de Qumran. À mon avis, peut-être, mais ça, il faut, c'est un peu contextuel, c'est pas, bon, pas tout à fait possible de montrer ça. Mais je ne suis pas non plus certain qu'on ne peut pas parler de ça finalement, ou qu'il y a des preuves qui ne nous permettent pas de dire ça. C'est que on voit très bien qu'en ce qui concerne la résurrection des morts, par exemple, le bienfait de la résurrection des morts, les deux listes utilisent la même source philologique, hein, c'est Isaïe 26, 19, texte massorétique. Alors. Les deux listes contiennent la conjonction et, le vœu ou le caï, et ce qui montre que c'est une coïncidence, si vous voulez, mais elle renforce le fait que peut-être il y a des rapports entre les deux. Je vous ai dit qu'il y a trois bienfaits communs. Donc, pour le Logion, il s'agit de la moitié de Logion. Et je pense que, en plus de cela, on a la résurrection des morts, le bienfait de la résurrection des morts, qui, dans les deux listes, évidemment dans les deux listes, est suivi par celui de l'évangélisation des pauvres. Donc, si c'est déjà une coïncidence d'avoir les trois bienfaits communs, on a que celui de la résurrection des morts est suivi dans les deux listes par l'évangélisation des pauvres. Alors je pense que, en ce qui concerne les deux listes en soi, en général, il faut exclure l'Ancien Testament comme étant la source philologique, ou en tout cas en ce qui concerne le cadre de ces deux listes. Et si Jésus, ou les évangélistes, hein, ou les chrétiens en soi, les écrivains, si vous voulez, Luc ou Matthieu ou Jean ou Marc n'ont jamais parlé directement des rapports entre Jésus et les Esséniens. Force est de constater qu'au niveau philologique, il y a quand même des liens. Alors, il faut savoir comment on va interpréter ces données. Je suis conscient, et je le dis, on est dans quand même dans les suppositions, mais c'est les coïncidences sont trop grandes pour les ignorer, pour ne pas dire que si c'est l'évangéliste Matthieu qui réalise cette structuration, ou c'est vraiment les paroles de Jésus qui ont été rapportées par Matthieu et Luc. En tout cas, c'est très possible que ça existait de la bouche de Jésus, vu que les deux évangélistes vont garder les paroles sous la forme d'une sorte de liste des bienfaits. Mais moi, je pense que Jésus, justement, il raconte aux disciples de Jean-Baptiste exactement ce qu'ils devaient entendre. Mais s'il dit ce qu'il raconte maintenant ici, c'est parce que, en tout cas, hein, les disciples de Jean-Baptiste avaient une connaissance de la liste de Qumran. Sinon, je ne vois pas le but de raconter à ces gens-là une telle liste qui, ce n'est pas une réponse, en fait. C'est pas Jésus ne dit pas « Je suis votre Messie, votre futur » ou « Qui croyez-vous que je suis ?» ou Parfois, il pose des questions, il ne répond pas directement tout de suite. Mais ici, il donne une réponse qui est faite, qui est construite. C'est comme s'il raconte un poème, s'il récite un poème. Alors, ce poème, il est, théologiquement parlant, il est très très dense, et il y a une charge théologique qui est envoyée aux disciples de Jean-Baptiste, bien entendu à Jean-Baptiste, mais je ne pense pas que c'est vraiment pour Jean-Baptiste, mais c'est plutôt pour les disciples de Jean-Baptiste, pour qu'ils puissent comprendre qui est Jésus et le fait que, dans le contexte environnant, la liste de enfin, l'apocalypse messianique qui était à Qumran, et qui peut-être était connue à mon avis, en tout cas, je ne vois pas autrement les rapports qui sont ici, Jésus veut montrer qu'il est l'accomplissement de ses bienfaits, qu'il est le Messie qui est présenté dans les textes de Qumran, enfin, des Qumran, qu'on a découvert à Qumran. On ne sait pas comment on les appelait à l'époque, mais on dit comme ça. Et donc Jésus, il est conscient de ce qu'il donne comme réponse. C'est une réponse réfléchie et imaginée pour avoir un certain effet, et un effet immédiat et concret. Ce n'est pas juste des paroles. Il ne va pas reprendre l'Ancien Testament. Il aurait pu très bien reprendre Isaïe 61, mais ce que lui propose, c'est une liste bien réfléchie et bien structurée. Je m'arrête ici. Pour cette réponse, si vous voulez, cryptée de Jésus, parce que sinon les autres ne vont jamais comprendre la réponse de Jésus. Je pense, je veux dire, il y a une cryptation, un code qui est inscrit dans cette liste, et il faut le décrypter, mais seulement ceux qui sont vraiment avancés au niveau de la lecture des Saintes Écritures pourront comprendre ce que Jésus veut raconter. Comme il dit dans l'évangile de Matthieu, Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc cela comprend aussi les pécheurs, mais aussi le travail de Jésus comprend aussi les brebis perdues d'Israël. Ici, c'est pas forcément on parle de brebis perdues, c'est pas forcément un pécheur, celui qui a fait du mal, mais celui qui n'arrive pas à comprendre et à interpréter les Saintes Écritures dans le bon sens. Alors, pour ce qui est de notre deuxième sujet, j'ai pensé à vous parler d'un concept plutôt que. C'est une expression qui referme un concept, c'est ce qu'on appelle le livre de la vie. Parce que l'expression le livre de la vie fait très bien partie de la tradition biblique. J'ai voulu un peu expliquer et élargir un peu la compréhension que généralement nous portons sur le livre de la vie. On rencontre cette expression en Daniel 12:1, le psaume 69:29, Deutéronome 29:19, 29:26 ou 30:10, ou dans le Nouveau Testament, en Philippiens 4:3, ou dans le livre de l'Apocalypse à 4 reprises. Alors, On a découvert aussi à Qumran cette expression, ce qui prouve que cette expression biblique n'était pas, elle n'est pas spécifique, si vous voulez, au texte qu'on appelle des Saintes Écritures, mais que il y a en tout cas les concepts existaient déjà dans la conscience judéenne, enfin plus tard judéo-chrétienne. Et mon a priori, si vous voulez, ma thèse, c'est que cette expression, ce concept, va connaître une évolution, et le sommet de cette évolution va être dans l'Apocalypse. Et le texte de Qumran, où on a découvert cette expression, je pense, est une sorte de phase intermédiaire. Alors, dans un texte liturgique, il paraît, de Qumran, on a cette expression où elle suppose l'existence d'une vie au-delà de la mort. Le destin des justes est différent du destin des méchants et des impies qui, eux, ne seront pas inscrits dans le livre de la vie. Et donc, nous ne pourrons pas jouir des biens eschatologiques qui consistent à servir Dieu et à lui rendre grâce. Ça, c'est dans le texte de Qumran. Dans ce fragment, les impies ne sont pas les étrangers, mais les juifs eux-mêmes qui ont péché contre Adonai, contre Yahvé, en ne respectant pas l'alliance, car ils ont servi un dieu étranger dans leur propre pays. Alors ce texte, on l'a appelé aussi Parole des Luminaires, et le meilleur manuscrit qui est conservé, on a découvert trois exemplaires. Le meilleur, ça s'appelle 4Q, donc ça veut dire la quatrième grotte du Qumran, 4Q504, et là, lui date des années 150 avant Jésus. Donc il est très très ancien, même pour la période de Qumran, très ancien, et donc il reflète une sorte de compréhension, une théologie pré-qumranienne, qui par après va se cristalliser. Et ça va vraiment être de plus en plus sectaire. Je vais passer à d'autres éléments. Je vais vous citer le texte, comme ça vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, comme je vous ai dit, il est fragmentaire, il n'est pas complet. Et je ne vous cite pas tout, hein, c'est juste une partie du texte, un fragment. Et tu nous as débarrassés de toutes nos fautes et tu nous as purifiés de notre péché pour toi. Oh, à toi, oh, oui, à toi, Seigneur, la justice, car c'est toi qui as fait tout cela. Et maintenant, aujourd'hui même, où s'est humilié notre cœur, nous avons expié notre iniquité et l'iniquité de nos pères pour notre infidélité, ainsi que leur ou notre conduite rebelle. Nous n'avons pas rejeté tes épreuves, notre âme ne les a pas méprisées, ou n'a pas méprisé tes punitions au point de rompre ton alliance malgré toute l'angoisse de notre âme, puisque c'est toi qui as envoyé contre nous nos ennemis et qui nous a réconforté le cœur pour que nous racontions ta bravoure aux générations éternelles. Eh bien, nous t'en prions, Seigneur, comme tu fais des miracles de tout temps à jamais, et à jamais, que serait-il donc ta colère et ta fureur loin de nous? Vois notre misère, notre peine et notre détresse, et délivre ton peuple Israël de tous, les pays proches et lointains, où tu les as bannis. Tous ceux, et c'est notre ligne qui nous intéresse, tous ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie, on a un texte qui manque, te servir et rendre grâce à ton saint nom. De tous ceux qui les frappent, ou leurs persécuteurs, ceux qui font trébucher. Alors le texte il est cassé ici, on ne connaît pas la suite. Mais donc, on a l'impression d'être une sorte de prière pénitentielle. À mon avis, il s'agit d'une sorte de cantique, un chant religieux qui s'adresse directement à la divinité. Une sorte d'anamnèse, des pardons accordés par Adonai. Après, une sorte de prière où maintenant, aujourd'hui, intervient, parce que les lois n'ont pas été écoutées. Ensuite, on a une demande explicite de Laurent qui C'est une sorte de pénitence personnelle ou collective, on n'est pas trop sûr du texte. Et tout se joue autour de l'alliance. Hein. Alors, le dernier moment, c'est la gratitude envers Adonai, parce que tous ceux qui sont inscrits dans le livre vont te servir et rendre grâce à à saint nom. Ce n'est pas trop clair ce qui signifie rendre grâce, mais ça nous rappelle quand même l'Eucharistie chrétienne de plus tard. Et on ne sait pas, bien entendu, on est très loin de dire qu'il s'agit ici de l'Eucharistie en soi, mais l'idée de rendre grâce, c'est le même mot. Enfin, il faut voir, Eucharistie, c'est le même remerciement, si vous voulez. Comme j'ai dit, c'est trop loin pour dire ça. Mais en tout cas, on a ce qu'on doit souligner, c'est vraiment ce rapprochement entre le livre de la vie et servir Dieu et rendre grâce. Alors, pour l'Ancien Testament, cette expression, le livre de la vie, bah, existe depuis très longtemps. Avant, on parlait plutôt des tablettes célestes ou les mémoires qui existaient dans le Proche-Orient. Des tablettes du destin, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est aussi l'idée du jugement divin. On va corréler l'idée du jugement divin avec les tablettes célestes, par exemple en Exode 32:32, et en Daniel 7:10, on va reprendre cette idée du livre céleste et le jugement, thème du jugement. Par exemple, on dit le tribunal était assis, les livres étaient ouverts. On ne parle pas le livre de la vie, mais en tout cas, le concept n'est pas. Comme je vous ai dit, c'est aussi une phase intermédiaire, n'est pas très clairement expliquée. Mais le registre céleste, on va le trouver aussi en Luc, chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Voilà. Par exemple, Isaïe, chapitre 4, versets 2 à 6, ou Malachie, chapitre 3, versets 1 à 18. Ce livre de la vie, dans ce registre, on va écrire ceux qui vont survivre au jugement de Dieu et qui vont vivre comme des citoyens de la Nouvelle Jérusalem, de la Nouvelle Israël. D'un point de vue lexicographique, l'expression qu'on a découverte à Qumran est une reprise du psaume 69, verset 29, mais elle n'est pas tout à fait exacte du point de vue philologique, d'un point de vue philologique, et elle n'a pas exactement le même sens, hein, car l'auteur du psaume parle du conflit entre les justes et l'impie. Alors, la punition des impies consiste alors à les rayer du livre des vivants. Donc c'est pas exactement la même, c'est pas le livre de la vie, mais c'est le livre des vivants. En Exode 32:32, on dit pourtant, s'il te plaisait de pardonner le péché, sinon efface-moi, c'est Moïse qui dit, efface-moi de grâce du livre que tu as écrit. Ça, c'est une intercession de la part de Moïse envers Adonai. Alors, la réponse de Yahvé, d'Adonai, est tranchante, celui qui a péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Donc le fait d'effacer le nom entraîne des conséquences capitales pour l'avenir de l'homme. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on a ça. L'effacement du nom était associé à la punition capitale en Deutéronome 29-20 et aussi à l'effacement de la mémoire nationale en Exode 17-14 ou encore une fois Deutéronome 25-19. Dans le monde grec, on sait que les citoyens coupables d'un crime étaient effacés des registres publics. Mais je ne vais pas insister non plus, parce que ce n'est pas vraiment notre but ici. Cette idée d'un livre des vivants va être aussi reprise dans la première épître de Clément. Donc, c'est dans la lecture chrétienne. Où on dit, quand on va interpréter le passage, et Moïse dit, Loin de toi, Seigneur, pardon le péché de ton peuple, sinon effacement aussi du livre des vivants. Il s'est juste avec cette étude associée avec le livre de la vie. Alors pour être dans ce livre, il faut respecter les commandements de la loi. En Daniel 12:1, on va retrouver cette expression, et si elle n'est pas une reprise exacte, elle est constitue quand même un parallèle étonnant avec le texte de Qumran. Parce que en Daniel 12:1, on dit: ton peuple échappera, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Et à Qumran, on dit: délivre, on met des points, points parce qu'on ne connaît pas le texte, ton peuple, encore des points, tous ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie. Le texte de Qumran ajoute le mot de la vie, le qualificatif de la vie. Mais voilà, pour le livre Daniel, il s'agit de ceux qui sont inscrits dans ce livre vont échapper à la mort. Et on dit: un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle, hein, dit Daniel 12, verset 2. Et presque la même chose on dit dans le texte de Qumran, où on parle d'une place éternelle devant Dieu. Il me semble, et l'analyse est un peu plus longue, que le point de départ pour le fragment de Qumran est Daniel chapitre 12, versets 1 à 3, parce que dans les deux textes, le but est d'obtenir de la part d'Adonai la reconstitution d'une nation, du peuple d'Israël. Et donc, c'est très possible que nous ayons ici une traduction commune. Alors, les morts de Daniel 12, chapitre 12, versets 1 à 2, ne sont pas des morts ressuscités pour des raisons raciales, mais des morts ressuscités pour leur fidélité à l'Alliance. Il est question de la même réalité en 4Q 504, où l'auteur fait référence clairement au peuple d'Adonai, dont les noms sont inscrits dans le livre de la vie. Pour le texte de Qumran, les fidèles d'Israël qui ont subi les épreuves et les punitions d'Adonai et ont expié leurs péchés et le péché de leur père contre l'Alliance se tiendront. On ne dit pas ressuscité, mais ils se tiendront devant Adonai. On imagine que se tenir devant signifie une sorte d'existence continue. Alors, il faut maintenant passer et comprendre qu'est-ce qui se passe avec le texte de l'Apocalypse. Parce que, en fin de compte, il y a 5 fois, on parle de, on utilise l'expression dans le livre de l'Apocalypse. 5 fois, 6 fois dans 4 citations. Et on a encore une fois en Philippiens, chapitre 4, verset 3. En Luc 10, 20 et l'Épître aux Hébreux 12, 23, il est aussi question de ceux dont le nom se trouve inscrit dans les cieux, mais on ne va pas désigner ça par le livre de la vie. Ah. Qu'est-ce qui se passe avec l'Apocalypse et cette expression, le livre de la vie? Alors, je me suis questionné, qui est inscrit dans le livre? Alors, quelles sont les conditions pour y être inscrit? Je m'interroge aussi, quand ce livre atteindra-t-il son terme? Quel profit peut-on attendre du fait d'y être inscrit? Ou quel dommage subit-on si l'on n'y est pas? Et je pense que il me semble que la réponse à ces questions peut nous permettre de mieux comprendre, de mieux situer ce thème dans la compréhension générale des livres bibliques entre 150 avant Jésus et 100 après Jésus. Si on accepte qu'on a rédigé l'Apocalypse autour de l'an 100. La double idée du livre de la vie et du livre de jugement pour les croyants, donc je vous ai dit, elle On la trouve en Daniel, hein, chapitre 12, ou on peut ajouter aussi le chapitre 7. Et il me semble que le jugement de Dieu en Apocalypse, il reprend Daniel chapitre 7, verset 10, parce que dans l'Apocalypse, il commence par l'ouverture des livres. Apocalypse 20, 12. Alors, si j'ai un schéma que vous allez pouvoir consulter dans le document remis, alors ici, à mon avis, on parle de deux résurrections, en fait, dans l'Apocalypse. La première résurrection, concerne les martyrs qui vont être habillés dans des vêtements blancs. Et ils vont aller dans la. Ils iront dans la Jérusalem céleste. En ce qui concerne la deuxième résurrection, il s'agit de deux catégories. Les morts, ça c'est en Apocalypse 20, chapitre, verset 12 à 15. Et en ce qui concerne les morts, il s'agit de bons et de méchants, qu'on va juger selon leurs œuvres. Et les bons iront dans le ciel nouveau et terre nouvelle. La Jérusalem nouvelle, tout comme les martyrs, et les méchants, ils iront dans un étang de feu et de soufre. Selon l'Apocalypse 20, verset 10. Alors, la deuxième catégorie, c'est les inscrits dans le livre de la vie. Et ce qui est spécial ici, c'est que tout comme les martyrs, ils iront dans la Jérusalem nouvelle. Et on nous dit, le texte de l'Apocalypse, ils ne seront pas affectés par la seconde mort. De plus, en ce qui concerne aussi le sort des inscrits dans le livre de la vie, après le jugement final, c'est qu'ils n'auront plus de malédiction, ils adoreront l'agneau, ils régneront pour l'éternité. Ah, c'est. Et ma liste, explique d'autres éléments. Mais il me semble qu'ici, le concept de livre de la vie, il est beaucoup, beaucoup plus détaillé, même si c'est encore, peut-être, il faut mieux le comprendre, mieux le situer pour l'expliquer. Mais parce qu'il me semble parfois que on peut admettre dans le livre de la vie aussi ceux qui ont remporté la victoire en s'opposant à la bête. Donc ils vont refuser d'adorer son image et leur mort martyrique, ce n'est pas seulement une mort violente et rapide, mais aussi le rejet social et économique qui entraîne logiquement la mort sociale et qui à son tour peut éventuellement entraîner la mort physique. Donc, les martyrs vont porter des vêtements blancs, signe que leurs noms ne seront pas effacés du livre, en fait. Et donc, une seconde catégorie de ceux qu'on peut trouver dans le livre de la vie, c'est les croyants qui ont réalisé de bonnes œuvres et qui échapperont à la punition divine. Et je vis, on dit le texte, et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de la vie, on le jeta dans l'étang de feu. Et l'étang de feu, cette idée, image, cette expression, on la retrouve aussi dans l'épître aux Romains, ou 2 Corinthiens, ou 2 Timothée, ou 1 Pierre 1, 17. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas tout à fait bien, bien clair, mais on a l'impression ici que le livre de la vie dépasse, si vous voulez, le livre du contenu, des actes de chacun. Alors, pour être dans le livre de la vie, il faut avoir la foi et les œuvres. Tu ne peux pas être là sans la foi et sans tes œuvres. Donc, soit tu es un vainqueur ou un martyr, soit tu as montré une fidélité totale envers Jésus, selon Apocalypse 2, 26, ou selon 1 Jean, 5:5. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 5. Et cela, il faut jusqu'à la mort. Hein. Cette même condition, cette fidélité envers Dieu, on la retrouve dans les autres mentions du livre de la vie dans l'Ancien Testament, comme par exemple en Exode 32, 32, Psaume 69, 29, ou le Nouveau Testament, Luc 10, 20 et Philippiens 4, 3. Alors pour les morts qui connaîtront le jugement de Dieu pour leurs faits, il est évident que le critère d'admission est la qualité de ses œuvres. Cette qualité constitue en fait la deuxième condition pour être inscrit dans le livre de la vie. J'en passe un tout petit peu au niveau de l'image du trône, comment va se passer le jugement. Alors, ce qui n'est pas explicité dans l'Apocalypse, mais on retrouve beaucoup plus clarifié dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, où on dit que les vivants qui se présenteront au jugement final peuvent aussi faire partie du livre de la vie sans le savoir. Alors, après, le texte dit, après nous, après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Ils espèrent être parmi ceux de la maison de Dieu, d'après les principes de la juste rétribution des hommes. Alors, si je peux me permettre de conclure que le premier bénéfice d'être inscrit dans ce livre est en fait la première résurrection. Et cette première résurrection a comme conséquence directe l'impossibilité de mourir de la seconde mort. Ceux-ci ne seront pas jugés au jugement final précisément parce que leurs noms sont présents dans le livre de la vie. Mais là, c'est pas tout à fait, à mes yeux, c'est pas encore bien clarifié et il faudra soit creuser le sujet, soit avoir en vue d'autres textes. Alors, pourquoi ce livre permet-il aux saints d'échapper au jugement final? Parce qu'en fait, le Christ témoigne auprès du Père pour ceux qui ont témoigné en sa faveur devant les hommes et devant la bête. Ceux-ci iront dans le paradis de Dieu, ils recevront une couronne de victoire, ils ne courront plus le danger d'être effacés du livre de la vie, ils auront le droit de siéger à la droite de l'agneau. Ils n'auront plus faim et soif, et ils seront les prêtres du Christ. Et en cette qualité de prêtre, ils rendront au Seigneur un culte jour et nuit dans le sanctuaire. Il me semble que aussi le fait de servir le Christ en tant que prêtre constitue un renvoi au livre de la vie de 4Q504, où on dit que tous ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie, te servir et rendre grâce à ton saint nom. Il me semble que, comme j'ai dit déjà, que le livre de la vie, le texte de Qumran, est un concept encore en phase d'élaboration et la forme la plus développée se trouve ici dans l'Apocalypse, qui témoigne de l'état des changements qu'il a subi. Donc, pour résumer, on comprend que grâce aux détails donnés par l'Apocalypse, l'action de rendre un culte perpétuel au Seigneur fait partie de la période intermédiaire entre la première résurrection et le jugement final. Parce que, selon l'Apocalypse 17, verset 15, ou 20, verset 5, on dit que cette action de rendre culte perpétuel au Seigneur, ça dure pendant 1000 ans. Alors, on peut penser que le texte de Qumran connaissait le fait que l'appartenance à ce livre signifiait une première résurrection, qui logiquement entraînera la vie éternelle. Et après le jugement final, les bons, donc ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie, iront avec les martyrs dans la Jérusalem nouvelle, préparée pour eux, où ils adoreront l'agneau. Deuxièmement, les morts qui se présenteront au jugement final et les vivants qui auront fait des œuvres. Des bonnes œuvres bénéficieront des mêmes bénédictions aux bienfaits que les martyrs, car ils font aussi partie du livre de la vie. Et troisièmement, les méchants ainsi que le diable se trouveront dans l'étang de feu et de soufre, qui constitue vraiment une mort spirituelle loin de la face de Dieu. Alors il faut rappeler que 4Q504, c'est presque un contemporain du livre de Daniel, hein, au niveau de la chronologie de la rédaction du texte. Il témoigne indirectement une sorte de croyance dans une vie perpétuelle, éternelle. Mais on n'est pas sûr que le texte il veut vraiment dire cela. Et donc, à mes yeux, c'est plutôt la comparaison avec Daniel et l'Apocalypse qui nous révèle un texte qui se préoccupait pour le respect de l'alliance autour de la résurrection. Et là, il faut voir de quelle résurrection, de qui, d'une nation, la nation d'Israël, ou la nation des justes, ou la résurrection que des justes. Par exemple, Daniel 12, verset 1, ajoute au concept de livre la résurrection du peuple, mais le peuple en tant que personne fidèle à la foi, à la loi. Donc, je pense que l'Apocalypse, par le développement qu'elle propose, elle explicite mieux, si vous voulez, le lien avec la vie éternelle et la résurrection, qui n'est pas très bien présenté ou clarifié dans le texte de Qumran. Et c'est les casures du fragment qumranien qui ne nous permettent pas de montrer directement par des preuves philologiques s'il y avait ou pas une croyance dans la résurrection des morts. Mais en tout cas, l'Apocalypse de Jean nous permet de supposer au moins l'existence quasi automatique d'un lien entre le livre de la vie et la résurrection des morts. Ce n'est pas très clair dans le texte de Qumran, mais c'est fort possible que... En tout cas, on commençait déjà à envisager ce lien, bien avant l'arrivée de Jésus et l'apparition du christianisme. Donc c'est plutôt une sorte de recherche identitaire, je pense, qu'on retrouve à Qumran, mais que le texte du Nouveau Testament, si celui est mis en lien avec et en corrélation avec, l'Apocalypse, nous permet de voir ce contexte où vraiment on réfléchissait au sort des justes et des impies et on imaginait la vie éternelle, on avait la vie éternelle en tête. Alors, notre dernier sujet que j'aimerais bien vous présenter, c'est exactement de quoi on parle quand on dit le sort des bons, les récompenses des bons ou le sort des méchants ou leur châtiment. Alors, quand je veux parler de le sort des bons et des méchants, je pense qu'il faut aussi faire référence à un terme de l'Ancien Testament, très connu mais très utilisé, qui est celui de la visite. Quand Dieu va visiter le peuple, quand Dieu va voir ce qu'a fait le peuple, et cette visite, elle va avoir des conséquences. Hein. Par exemple, on peut imaginer que toutes les actions que Dieu va poser en faveur du peuple d'Israël à partir de Moïse, la sortie d'Égypte, c'est une sorte de visite de la part de Dieu, mais on n'utilise pas le terme, mais c'est une sorte de Dieu voit son peuple, il regarde sa souffrance et il va utiliser son pouvoir pour justement intervenir en faveur de son peuple. Alors, à Qumran aussi, on a découvert dans un texte très connu, ça s'appelle la règle de la communauté, bon, ça s'est abrégé 1QS. En fait, c'est un texte très important pour la communauté, parce qu'on va avoir des lois, des règles, et toute la théologie de cette communauté, qui très probablement a fourni la masse énorme de manuscrits qu'on a pu découvrir. Et dans ce texte, dans un des fragments, on explique à un moment donné que signifie exactement le... sort des bons et des mauvais. Alors, on peut dire aussi que c'est une sorte de, si vous voulez, la dogmatique de cette secte, de cette communauté, bon, si on parle des Esséniens ou pas, parce qu'ici, c'est très, il y a très peu de citations littérales, il n'y a que trois en fait. Mais on a plutôt une sorte de mosaïque de textes de l'Ancien Testament. Et on va voir ici une sorte de monothéisme strict, hein, mais en même temps une sorte de dualisme, une sorte de lutte cosmique entre les deux anges très puissants, l'ange de la lumière et l'ange des ténèbres. Et on a l'impression qu'on se trouve dans l'âge de la fin des temps, et qui est exprimé par l'arrivée attendue des messies, au pluriel, et une sorte de guerre finale entre les bons et les impies. Alors, dans ce contexte, nous avons, j'ai choisi ce fragment, et je vous le lis maintenant, et la visite de tous ceux qui le suivent consistera en une guérison et une grande paix, dont la longueur de jour et une postérité florissante, avec toutes les bénédictions perpétuelles et une joie éternelle, dans une vie sans fin et une couronne de gloire, avec un vêtement de majesté, dont la lumière éternelle. Et la visite de tous ceux qui le suivent consistera en une abondance de malheurs par l'intermédiaire de tous les anges de la destruction pour une peine éternelle par l'ardente colère du Dieu de vengeance pour un tourment perpétuel et une honte éternelle avec l'opprobre de l'extermination dans le feu des ténèbres. Et tout leur temps de leur génération seront dans le deuil de l'affliction et le malheur de l'amertume, dans les abysses des ténèbres jusqu'à leur extermination, sans aucun reste et ni rescapé. Alors, le mot visite, donc, je vous ai dit que le texte souligne cette visite. Il y a d'autres chercheurs qui ont traduit ça par la récompense, mais je reste plutôt dans l'avis de visite ou visitation en tant que jugement de Dieu, comme on l'a dans Osée 9, 7, hein, on parle de, exactement, on voit ce sens, Isaïe 10, 3, ou Nombre 20, 16, 29, ou encore d'autres, Michée 7, 4, Ézéchiel 9, 1. Ici, on parle de cette visite, enfin, de ce jugement de Dieu. Et ce jugement va avoir des conséquences très graves pour ceux qui ne sont pas à côté de Dieu et qui ne suivent pas Dieu. Mais en même temps, on a aussi des bienfaits pour ceux qui suivent Dieu et qui cherchent à être auprès de lui. Et donc, il y a, au niveau littéraire, c'est vraiment très bien réalisé. Très belle structure symétrique. Vous allez pouvoir imaginer ça dans le texte que vous allez dans le PowerPoint que vous allez pouvoir accéder, avoir accès sur le module, dans le module. Et donc ici, cette théologie, elle est vraiment différente. En fait, par rapport au texte de l'Ancien Testament, on a ici vraiment une sorte de structuration qui dépasse l'Ancien Testament, qui n'est pas liée, si vous voulez, au peuple d'Israël. Parce que l'Ancien Testament, il reste toujours dans cette optique de tout l'ensemble du peuple. Mais les textes de Qumran, ici, dans la règle de la communauté, la 1QS, donc ce texte, il est plutôt orienté vers le croyant. Il sort de l'optique nationale ou nationaliste, si vous voulez. Et la manière dont il retravaille les textes de l'Ancien Testament, y a pas moyen, on ne peut pas rester indifférent, si vous voulez, par rapport à ce qu'on dit dans le Nouveau Testament. Alors, l'équivalent grec du mot hébreu, fakad, visite, hein, c'est épiscopie. On peut pas, ça nous résonne très bien le mot évêque, épiscopos, en tout cas ceux qui connaissent le mot. Et dans l'ensemble du Nouveau Testament, parmi d'autres connotations, le mot épiscopie, il a le sens aussi de condamnation, de punition. Mais il est toujours mis en lien avec la rémission des péchés et avec le pardon. Alors, ce mot, on le trouve aussi dans d'autres textes, c'est pas qu'au niveau de Qumran. Donc, sinon, le mot peut aussi avoir un sens séculier, tout simplement de visite. On va visiter quelqu'un, mais hors de ce contexte séculier, de rendre visite à quelqu'un, visite ordinaire, il signifie plutôt le jour du Seigneur ou le jour du jugement final. Et on le, par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8, c'est lui, donc Jésus, le Christ, c'est lui qui vous affermira jusqu'au bout pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien entendu, il est inutile de chercher à connaître ce jour, car on dit en Matthieu 24, 36, quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Alors, pour le texte de Qumran, c'est Adonai, Yahvé, qui va réaliser le jugement ou la visite, et ce n'est pas le Messie. Hein, on a deux Messies, en fait, à Qumran. Donc, pour un QS, il ne s'agit pas des messies au niveau du jugement. Tandis que pour 1 Corinthiens 1,8, c'est le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Une grande différence quand même. Et si les deux textes font usage de Daniel 12, on a dans le Nouveau Testament l'intercesseur auprès du Père qui est le Christ. Alors, l'intercesseur devient aussi ensuite le paraclète, l'accusateur, pour le manque de foi en lui. Pour ceux qui ont obéi à ses paroles, il se montrera comme un défenseur, tel que le précise la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Je vais quand même abréger un tout petit peu mon texte parce que l'heure est très avancée. Alors, on peut très bien analyser les expressions qui sont proposées ici comme couronne de gloire hein, que propose le texte de Qumran. La première épître de Pierre, chapitre 5, verset 4, il dit: Et quand paraîtra le chef des pasteurs, donc on s'imagine que c'est le moment de la visite, enfin le moment du jour de jugement, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. L'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, parle de couronne de vie qui va être donnée aux fidèles comme récompense. En ce qui concerne le vêtement de majesté, il n'y a pas d'équivalent dans l'Ancien Testament. Et au niveau du Nouveau Testament, c'est plutôt la parabole du festin nuptial de Matthieu 22, où on dit que les convives qui n'ont pas la tenue d'une noce seront jetés dans les ténèbres. En quelque sorte, les robes constituent le signe du passeport, si vous voulez, pour la vie en Christ. Pour ce qui est la lumière éternelle, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus dit: Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Et Jésus va se proclamer lui-même la lumière du monde, qui offre la lumière de la vie à ceux qui croient en lui. Et il dit en Jean 3, 6, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Et ça peut continuer encore d'autres textes en ce sens. Donc il y a un lien, en tout cas dans le Nouveau Testament, un lien entre la qualité des actes et la résurrection. Et donc tu ne peux pas avoir la lumière éternelle, et qui est en fait le Christ, que si tu arrives à la résurrection, à la vie en Christ dans le royaume des cieux. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et dans l'épisode de la résurrection de Lazare, on dit: je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi-même, il si même en, qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Donc la vie éternelle, elle est liée à la résurrection de Jésus. Alors, il faut quand même souligner que le sort des justes dans le Nouveau Testament est quand même différent de celui des justes de Qumran. Mais Jésus proposait des rapprochements qui, à mon avis, ne relèvent pas d'une influence directe de Qumran sur le Nouveau Testament, mais d'une sorte de conception générale, enracinée dans l'Ancien Testament, mais qui a été soumise à des développements théologico-historiques différents en fonction de la communauté qui les proposait. Alors, il y a quand même des différences entre le Qumran et le Nouveau Testament, c'est considérable, notamment par le temps. À Qumran, c'est le temps futur, c'est un espoir qui arrive, mais pour le Nouveau Testament, il parle de maintenant, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas insister aussi, mais même pour la punition, hein, le Nouveau Testament, il parle aussi, hein, du feu éternel, la géhenne, le mot Hadès, On ne parle pas de ça dans le texte de Qumran, mais en même temps, les ténèbres font penser à cette punition. Le Nouveau Testament est beaucoup plus développé, beaucoup plus clair, et on sait beaucoup mieux de qu'est-ce qu'il s'agit. Et par exemple, au niveau des peines qu'on va donner à quelqu'un, l'expression peine éternelle de 1 QS, on la retrouve aussi en Matthieu 25, 46. Ce n'est pas vraiment un parallèle, c'est pas un parallèle vraiment parfait d'un point de vue philologique, mais on a quand même ce parallèle qui existe. Et aussi, il faut souligner que l'expression de Matthieu est tout à fait unique. Kalasin eonon. Elle est tout à fait unique dans le Nouveau Testament, mais on la retrouve plusieurs fois dans la littérature intertestamentaire et chrétienne, comme Martyr de Polycarpe ou le deuxième épître de Clément, et donc le Testament de Ruben aussi. Alors, je pense que le Nouveau Testament ne s'est pas inspiré au niveau du matériel philologique ou théologique de 1 QS4. Les deux ont utilisé les mêmes sources scripturaires, l'Ancien Testament et bien entendu la culture juive post-exilique qui constituait la culture environnante. Mais c'est plutôt le Nouveau Testament qui donne plus d'informations sur le lieu de punition des méchants. Il explique beaucoup mieux qu'est-ce qui va se passer au jour de cette visite, de ce jugement? Et le Nouveau Testament parle et fait clairement le lien entre ce jugement et la résurrection. Alors, je pense aussi que la comparaison avec le Nouveau Testament permet de supposer la possibilité de voir dans le texte la règle de la communauté une croyance, mais qui n'est pas exprimée dans la résurrection des morts. On ne peut pas clairement la montrer, mais si vous voulez, on peut expliquer cette expression. Elle se trouvait dans l'air des temps, mais elle n'était pas bien envisageable. Alors, pour ce qui est de notre cours, si vous permettez des conclusions générales pour ce cours-ci, c'est que les idées théologiques, les concepts théologiques qui circulaient ou qui ont été proposés par Qumran ont reçu soit des échos dans le Nouveau Testament, soit ont été envisagés par les auteurs des évangiles ou des autres textes du Nouveau Testament. Je ne pense pas qu'on doit parler d'une influence directe ou d'une influence de la part de Qumran, des textes de Qumran sur les textes du Nouveau Testament. Je dirais plutôt que le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament, les écrivains ont su intégrer et ils ont connu aussi cette masse de documents, ces documents littéraires proposés par cette communauté, enfin, ces sectes, cette branche du judaïsme, et qu'ils ont aussi intégré leurs réponses qui gravitent autour de Jésus afin de répondre aux attentes ou aux critiques, entre guillemets, de cette communauté. Pour nous, ce n'est pas évident, en fait, de comprendre cela, parce que les Esséniens, si on les appelle comme ça, ou les membres de cette secte, ont disparu. Si vous voulez, de tous les partis ou les branches philosophiques, religieuses du peuple d'Israël, à l'époque de l'arrivée, de la naissance, de l'incarnation de Jésus, notre Dieu, alors tous ont disparu, sauf les pharisiens qui ont survécu via les rabbins. Le rabbinisme a repris en fait que la branche pharisienne, peut-être aussi des idées à gauche à droite des autres branches, mais en général c'est plutôt les pharisiens qui ont survécu. Alors les autres ont disparu. Et si dans le Nouveau Testament on les appelle pas directement par leur nom, en fait, on ne connaît pas qui c'était, comment les appeler, on ne connaît pas ça. Peut-être il y avait des appels cryptés, et parce qu'en fait, les membres de la communauté ne vivaient pas à Jérusalem. Donc, il ne faut pas non plus imaginer qu'il s'agit de quelque chose de caché, ou d'un complot, ou quelque chose du genre, mais dans le sens que il fallait nommer les pharisiens, les grands prêtres, les prêtres du temple, les scribes et les sadducéens parce que, ou les zélotes, parce qu'ils étaient là et qu'ils faisaient partie de la politique qui se jouait autour du temple. Et il fallait très bien les comprendre, parce qu'ils ont eu aussi un rôle très important dans la condamnation de Jésus. Alors c'est clair que les auteurs ont montré ce qui s'est passé. Comme présentation historique, si vous voulez, des choses. Alors, comme ils étaient en marge de la société israélite, en marge du temple, je suis sûr et certain que le public des évangélistes incluait aussi cette catégorie. Il reste que les chercheurs arrivent à déceler, à comprendre comment les appeler pour mieux les identifier. Mais comme j'ai montré très brièvement, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas pu tout raconter ici. On a des références qui sont en lien avec les textes de Qumran. Et ces références nous permettent de comprendre des phrases qu'on les attribue à Jésus, des phrases qu'on les comprend d'un point de vue spirituel, qui sont utiles pour notre croissance spirituelle, mais parfois, on ne saisit pas trop s'il y a encore d'autres liens ou si c'est une nouveauté du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament. Pour ce cours, on s'arrête ici. J'espère que cette brève incursion vous a permis de mieux saisir et de beaucoup mieux apprécier les textes de Qumran. Et si vous souhaitez analyser ou regarder en détail, vous pouvez très bien trouver le document dans Moodle, que je vais le télécharger dans Moodle, et vous pouvez le consulter et peut-être chercher ce qui vous intéresse en particulier. Merci bien et à très bientôt.